J'aimerais parler ce matin sur Saül et David. Nous poursuivons ce thème sur la chair contre l'esprit, que nous retrouvons à plusieurs étapes dans la parole de Dieu. Nous avons parlé d'Ésaü et Jacob la dernière fois, où nous avons vu ce conflit entre la chair et l'esprit. Il ressurgit à nouveau dans 1 Samuel, chapitre 16 et au verset 14, entre Saül et David. Il est écrit « L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. » Les serviteurs de Saül dirent « Voici, un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, bethléhémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya ses messagers à Isaïe, pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec ses brebis. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux, et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. » Amen. Saül a été choisi par Dieu pour être le roi d'Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu. Donc Dieu a choisi un roi qui convenait pour conduire ce peuple. Et nous savons que Saül a fait de bonnes choses. En tout cas, au début, il a été humble. La Bible dit qu'il se cachait derrière les bagages alors qu'on le cherchait pour le faire roi. Il ne se sentait pas à la hauteur de la tâche qui lui était confiée. Et il vivait dans le retrait, dans l'humilité et dans la dépendance de Dieu. Mais les années passant, l'orgueil a commencé à gagner son esprit. Il a commencé à prendre des initiatives sans consulter Dieu. Et puis finalement, il a désobéi à la parole de Dieu qui lui avait tout simplement dit d'attendre le prophète. Il n'a pas attendu. Il a offert lui-même des sacrifices que seuls les sacrificateurs sont habilités à faire. Donc il a outrageusement renié ses convictions par rapport à Dieu et Dieu l'a sanctionné. On peut dire que Saül a connu une période dans une première partie de sa vie où il a grandi dans les choses de Dieu, où il est devenu le roi d'Israël et il a été apprécié. Il a même remporté des victoires au nom de l'Éternel. Et puis à partir d'un certain moment, quand la Bible dit que l'Éternel s'est retiré de lui, il a commencé à décliner, mais il n'a cessé de décliner. Il ne s'est pas remis en question, il n'a pas cherché à revenir à Dieu. Eh bien, il a continué doucement sur la pente descendante jusqu'à sa mort finalement, puisqu'il est mort éloigné du Seigneur. Toutefois, j'aimerais dire que Saül a désobéi à Dieu, mais ça n'empêche pas que le plan de Dieu va se faire quand même par une autre personne. Et cette autre personne, c'est David. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'obéit pas à Dieu, parce qu'il ne veut pas faire sa volonté, que le plan de Dieu va échouer, parce que Dieu va susciter une nouvelle personne. Et Dieu a cherché un homme selon son cœur, et nous savons que c'est Samuel, le prophète, qui a été envoyé par Dieu dans la maison d'Isaïe. Isaïe avait 8 fils, et il a présenté à Samuel 7 de ses 8 fils, les 7 premiers, et aucun d'eux n'a été choisi par Samuel. Alors Samuel a dit, mais n'y a-t-il pas encore un autre fils? Parce que Dieu lui avait donné cette précision, c'est dans la famille d'Isaïe que sera le successeur de Saül. Dieu avait donc rejeté Saül comme roi et il avait choisi un nouveau roi. Ce sera David. Alors, Isaïe a fait venir David, David qui gardait les brebis de son père à ce moment-là. Il n'avait donc pas été convié. Vous voyez, il aurait pu en vouloir à son père et dire, ben, c'est pas normal, pourquoi est-ce que moi je n'ai pas été convié? Pourquoi est-ce que, alors que mes 7 autres frères étaient là, je n'ai pas été présent? Il aurait pu, si on ne veille pas, avoir de l'amertume dans son cœur. Mais il a laissé ces choses-là, en fait, entre les mains de Dieu. Et vous voyez que si Dieu veut que quelqu'un soit quelque part, même si cette personne n'est pas convoquée à l'entretien, ben, il se débrouillera. Dieu a des solutions pour le faire venir là où il veut. Et ça ne dépend pas des hommes, ça ne dépend pas du père d'Isaïe. Isaïe avait un projet pour ses autres fils, ça ne dépendait pas de lui. Mais notre vie, elle dépend uniquement de Dieu, frères et sœurs. Et lui, il ouvrira les bonnes portes et nous conduira dans les meilleurs chemins. Donc c'est David qui a reçu l'onction. D'ailleurs, les autres frères, en voyant David qui était le plus petit, le plus jeune, il était encore adolescent, encore un jeune homme, ils ont été un petit peu vexés de ne pas avoir été choisis. Mais pourquoi être vexé? Après tout, l'un a reçu 5 talents, un autre a reçu 3 talents, un autre a reçu 1 talent. Est-ce qu'on va se vexer si on n'a reçu qu'un talent? L'important, c'est de mettre notre talent au service de Dieu. Et ce n'est pas de se comparer aux autres. Ils ont été vexés parce qu'ils se sont comparés aux autres. Mais ils n'avaient pas reçu ce que David avait reçu. Et à partir de ce moment-là, David ne va cesser de croître. Il a été oint de l'huile d'onction. Il va devenir donc de plus en plus puissant. Et David ne va cesser de décliner. Alors nous sommes ici dans ce texte que nous avons lu au chapitre 16, à un moment donné où on voit le contraste, hein, c'est la première rencontre entre Saül et David, on voit le contraste entre Saül qui est animé d'un mauvais esprit et David qui est rempli du Saint-Esprit. Et nous voyons bien le contraste entre celui qui marche par la chair et celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit s'étant retiré de Saül, ce n'est pas un hasard. Si l'Esprit-Saint se retire de nous, c'est parce que Saül a commis un grave péché, des désobéissances multiples. Le prophète l'a interpellé à plusieurs reprises, il a persévéré dans sa voie de désobéissance, c'est-à-dire il s'est entêté, il s'est endurci, il a eu plusieurs appels, plusieurs possibilités de faire demi-tour, et il n'en a fait qu'à sa tête. Et vous voyez qu'à un moment donné, eh bien, nous avons cette liberté, cette responsabilité, et Dieu l'a laissée dans son choix. Ce n'est pas que Dieu voulait que Saül s'éloigne, mais c'est Saül, dans son orgueil, dans sa désobéissance, dans son excès, dans sa folie, qui s'est égaré. Alors, Saül croit que tout va continuer comme avant, parce qu'il est roi, parce qu'il est le chef du peuple, des armées, mais il y a un jugement de Dieu sur sa vie et sa désobéissance. Voyez au verset 14, « L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. » La désobéissance de Saül a ouvert une porte dans sa vie ou une faille dans son cœur où maintenant un mauvais esprit que Dieu a permis, parce que Dieu est le maître de toutes choses, et il a permis qu'un mauvais esprit vienne agiter cet homme qui pourtant était un croyant. Et l'entourage du roi voit que Saül est agité par un mauvais esprit, mais on ne peut rien faire contre un mauvais esprit si on n'a pas l'esprit du Seigneur en nous. Vous voyez, vous pouvez lui donner des médicaments, vous pouvez lui donner des sachets pour le faire dormir, vous pouvez lui donner des anxiolytiques, mais ce n'est pas ça qui va apaiser Saül, parce qu'à chaque fois qu'il se relève, à chaque fois le mauvais esprit l'agite. Pourquoi? Parce que c'est spirituel et c'est avec des armes spirituelles qu'on peut remporter les combats spirituels. Mais comme Saül et son entourage sont manifestement conduits par la chair, par les choses de la terre, ils ne cherchent pas le conseil véritablement spirituel, ils n'ont pas les moyens, il va falloir trouver ailleurs et ils vont trouver donc David qui va pouvoir lui faire quelque chose. Alors un chrétien qui entretient un péché, un petit peu comme c'est le cas de Saül, il a entretenu des péchés non confessés, eh bien, il va se trouver dans une situation, à un moment donné, où il va se retrouver lié par des forces qui le dominent. Ce n'est pas qu'il veut faire ceci ou cela, mais ça va être plus fort que lui. Des fois, j'entends des personnes qui me disent « mais je voudrais arrêter, mais c'est plus fort que moi ». Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il y a un lien qui est venu sur votre vie et qui vous rend incapable de faire ce que vous voulez, mais qui vous force à faire des choses que vous ne voulez pas faire. C'était plus fort que moi. Eh bien, si vous venez en Christ, si vous donnez votre vie au Seigneur et si vous êtes rempli du Saint-Esprit, nous savons que toutes les chaînes du péché sont brisées dans la foi. Ça, c'est le miracle de la conversion, de la nouvelle naissance. Mais après, il faut rester dans la main de Dieu. Beaucoup de gens ont bien commencé à marcher avec Dieu comme Saül, mais ils ont pris des chemins de détour, de désobéissance, de manque de consécration, de manque en considérant peut-être qu'ils étaient assez forts, assez sûrs d'eux-mêmes, et ils se sont égarés, loin de Dieu, et s'il n'y a pas de repentance, ils vont dans la perdition. Je regarde maintenant David. On a vu donc du côté de Saül son orgueil, sa désobéissance, maintenant le mauvais esprit qui l'agite, c'est un homme tourmenté, il n'a plus la paix, il n'a plus la joie, il ne connaît plus la présence de Dieu. Tandis que David, nous avons lu dans ce texte qu'on disait du bien de lui, il avait une bonne réputation, c'était quelqu'un de proche du Seigneur, il avait été oint, il avait été choisi par Dieu, vous voyez, il avait été désigné pour être le futur roi d'Israël, mais il ne revendiquait rien. Il n'a jamais dit à Saül, Samuel m'a oint, maintenant tu vas me laisser la place, c'est moi qui vais régner à ta place. Il n'a jamais fait ça. Il a attendu que Dieu place les choses, mais il savait qu'il avait été oint pour être roi. Et il y a un petit détail, mais qui a son importance. Vous savez, quand David a été oint par Samuel, donc il a pris la corne d'huile, il a versé l'huile sur la tête de David au milieu de ses frères. À ce moment-là, il avait reçu l'onction pour régner. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement pour David à ce moment-là ? La Bible dit qu'il est retourné s'occuper des brebis de son père. Il n'est pas allé régner tout de suite. Il y a eu tout un temps avant que s'accomplisse cette bénédiction qu'il avait reçue. Il est tout simplement allé retourner. Il est retourné pendant plusieurs mois. On ne sait pas combien de temps. Est-ce que ça a été des mois, des années ? Il est retourné s'occuper des brebis de son père, comme il faisait exactement avant. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que parfois nous avons l'impression que nous tournons en rond, que nous faisons toujours les mêmes choses, que nous n'avançons pas. Mais en réalité, il y a les promesses de Dieu et il y a le temps de Dieu. Et quand il est en train de tourner en rond à garder ses brebis, c'est un temps de préparation pour la suite. Vous voyez, je prends l'illustration de ce potier qui travaille l'argile. Bien, à la base, l'argile n'a pas de forme. Il faut lui donner une forme. Il est flexible et vous le mettez sur le tour. Et c'est en fait en tournant en rond de plus en plus, que l'argile va être entre les mains du potier. Mais en tournant en rond, si on pouvait interroger l'argile et lui dire, il pourrait nous dire, mais à quoi ça sert de tourner en rond comme ça ? À quoi ça sert ? Parce qu'il ne se rend pas compte. Il aimerait bien peut-être quitter ce tour, arrêter de tourner en rond, faire autre chose. Mais en fait, en tournant en rond, il ne s'en rend pas compte. L'argile, elle ne s'en rend pas compte, mais elle est en train d'être façonnée entre les mains du potier. Et de la forme disgracieuse qu'elle avait au départ, bien le potier, en tournant en rond, tout simplement, il est en train de lui donner une forme plus élevée. Il est en train de l'affiner et de lui donner la forme d'un vase magnifique. Mais ça se fait dans le processus où l'argile tourne en rond, tout simplement. Il tourne, il tourne, il tourne. Et même si lui, il voulait arrêter, une fois que le vase est terminé, si on pouvait dire à l'argile, bien, qu'est-ce que tu as pensé de ce fait de tourner en rond ? Bien, il dirait, eh bien, ça a été utile pour moi. Sauf que dans le moment, nous ne le comprenons pas. C'est pareil pour nous, parce que bien souvent, nous sommes bloqués, nous sommes arrêtés par toutes sortes de situations, nous avons l'impression de ne pas avancer, de tourner en rond, mais nous sommes comme l'argile entre les mains du potier et Dieu est en train de nous façonner. Et finalement, nous sommes en train de grandir et d'être préparé, comme David était en train d'être préparé pour l'étape que Dieu avait prévue pour sa vie. Donc, ne considérez pas ces étapes comme secondaires. David est retourné garder ses brebis, il a été fidèle, personne ne s'intéressait à lui, il avait reçu l'onction, personne ne lui demandait d'être roi, il était là tout simplement comme il était avant, avec ses brebis, tournant en rond, mais en réalité, il y a un travail que Dieu est en train de faire dans sa vie, comme il est en train de le faire dans la nôtre. David donc avait cette bonne réputation, il était fidèle dans les petites choses, et Dieu lui a confié de plus grandes choses. Frères et sœurs, Dieu voit aussi notre fidélité dans les petites choses, parce que Dieu voit tout. Dieu avait vu David. Il est écrit au psaume 34, verset 16, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » David n'avait pas besoin de son père, il n'avait pas besoin que son père lui soit favorable, il n'avait pas besoin d'une intervention extérieure, il avait simplement remis sa vie entre les mains de Dieu. Ce n'était pas son père qui agit pour lui, mais c'est son Père céleste, c'est le Dieu Tout-Puissant qui l'a cherché derrière les brebis et qui l'a établi roi d'Israël. Quelquefois, nous comptons sur l'un, nous comptons sur l'autre, nous pensons qu'avec cette relation, ça va fonctionner, etc. Mais en réalité, ce n'est pas comme cela avec Dieu. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui détermine et c'est Dieu qui conduira notre vie. Il y a trois aspects que je remarque chez David. Premièrement, il savait jouer de la musique et Dieu a utilisé ce don pour aider Saül à un moment donné où il était agité par un mauvais esprit. Et Dieu a utilisé ce don pour lui permettre de composer des psaumes que nous lisons encore aujourd'hui et dont la plupart des cantiques que nous chantons sont inspirés en grande partie des psaumes. Donc cette musique, ce don qu'il avait pour jouer de la musique a été un moyen de louer le Seigneur et d'être utile pour le Seigneur. Deuxième chose que je remarque dans ce texte, il savait se battre. Avant même de confronter Goliath, on va y venir dans un instant, le grand géant qui suscitait la crainte à tout Israël. Mais il savait déjà se battre, David. Il est écrit dans le texte qu'on a lu, c'était un homme fort, un vaillant guerrier. Donc il avait le combat. Pour nous, ça nous parle du combat spirituel. Il avait déjà remporté quelques victoires. Il avait déjà confronté le lion et l'ours. Il avait déjà à son actif bien des victoires remportées par la puissance de Dieu. Et puis enfin, la troisième chose que je remarque, c'est que l'Éternel était avec lui et le faisait prospérer. Et quand l'Éternel est avec nous, c'est là que les choses vont commencer à changer. L'Éternel n'est pas avec nous par hasard. On dira que David entretenait une bonne communion avec Dieu, mais l'Éternel s'était retiré de Saül. L'Éternel était avec David parce que David appliquait certains principes dans sa vie, qui est l'amour de la communion avec Dieu, la recherche dans la prière, la soif de Dieu. Et si nous négligeons ces choses, mais l'Éternel ne sera pas avec nous. Même si nous chantons « L'Éternel est avec nous », eh bien, il y a des paramètres, des principes que David a appliqués. Dès que David est présenté à Saül, dans le texte que nous avons vu, on voit que ce jeune homme a beaucoup plu à Saül. Pourquoi ? Parce que David voit en lui ce qu'il n'a plus. Il voit en David la pureté. Il voit en David l'amour du Seigneur. Il voit l'humilité. Il voit en fait tout ce qu'il était lui avant d'être roi et de tomber dans l'orgueil et la désobéissance. Il voit aussi en David l'onction qu'il a perdue. Et maintenant, eh bien, il n'a plus ces choses, mais il aspire quand même à cela. Mais voilà, il a fait son choix. Son choix, c'est la désobéissance. Et c'est par la musique, donc par la harpe, dans la fin de ce passage, que nous voyons que l'onction du Saint-Esprit venait lorsque David, inspiré par l'Esprit, jouait de la musique. Eh bien, le mauvais esprit se retirait de Saül. Donc on voit que l'Esprit apporte la paix, l'Esprit apporte un changement. Il pouvait respirer à l'aise, il était soulagé. Et donc, ce n'était pas des médicaments, mais c'était spirituel. En fait, ce que Saül avait besoin par-dessus tout, c'est d'être en communion avec Dieu. Et malgré cela, il résistait. Malgré cet appel, quelque temps après, il retombait dans sa désobéissance. et il n'a jamais été totalement délivré. Le mauvais esprit l'a harcelé constamment, il était apaisé pour un temps, mais à chaque fois, eh bien, il revenait dans sa désobéissance et à chaque fois, il était harcelé. Il y avait certainement des choses que Saül ne voulait pas abandonner. Et c'est comme ça, frères et sœurs, quand nous ne voulons pas abandonner certains péchés, quand il y a des choses que nous pensons qui sont trop importantes et qui deviennent des idoles pour nous, eh bien, nous ne serons pas heureux et nous ne pourrons pas avancer dans la vie. Si on ne veut pas abandonner le péché, alors la vie de Christ ne règnera pas en nous. Et Satan sait comment attraper les âmes fragiles. Vous voyez, j'ai lu cet article de la manière dont les chasseurs réussissent à attraper les singes donc en Afrique pour les amener dans les eaux. Ils arrivent sur un terrain, donc dans la forêt, et à ce moment-là, tous les singes s'en vont. Ils se cachent dans les arbres. Ils creusent donc, les chasseurs creusent dans la terre et ils placent des vases dont l'embout est assez étroit, mais le fond est assez large. Assez étroit pour passer la main. Et dans le fond de ces vases, ils y placent des fruits que les singes apprécient vraiment, des sortes de graines qui sont appréciées des singes. Ils bloquent bien, en tassant la terre, les vases pour qu'ils ne puissent pas s'échapper. Et ils s'en vont comme s'ils partaient. Ils font semblant de partir, mais ils restent à proximité, ils observent. Et les singes, ne se méfiant pas, ils s'approchent des vases, regardent dedans, ils voient les graines, et ils placent leurs mains à travers le goulot. Mais une fois qu'ils ont attrapé une grosse poignée de graines, ils ne peuvent pas ressortir leurs mains, sauf s'ils lâchent les graines. Et c'est à ce moment-là que les chasseurs ont des filets et se jettent sur les singes, et c'est facile de les attraper. Parce que bien qu'ils voient les chasseurs arriver, ils ne veulent pas lâcher les graines qu'ils ont dans les mains, parce que pour eux, c'est trop, trop, trop précieux. Et ils se font en fait attraper bêtement. Ils pourraient très bien partir à toute vitesse et échapper aux chasseurs, et ils perdent leur liberté simplement parce qu'ils sont attachés à des choses futiles, finalement des graines qu'ils auraient pu trouver ailleurs. Et c'est comme ça qu'ils font. Et c'est ainsi que le diable agit. Il sait très bien qu'est-ce qui va tenter l'un, qu'est-ce qui va tenter l'autre. Il sait très bien les péchés qui vont séduire. Et il va les placer sur notre route. Et ainsi, le chrétien qui n'est pas vigilant, eh bien, il va y plonger les mains et il va se retrouver lié. Et tant qu'il ne veut pas lâcher ce péché, eh bien, il est lié par une chaîne invisible. C'est une chaîne que Satan a placée. Et il ne sera plus libre. Il ne sera plus libre. La Bible dit dans Colossiens 3:5, « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. » Qui est-ce qui doit faire mourir ces choses? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est moi? La Bible dit « Faites mourir ». Alors la Bible nous dit « C'est à nous de le faire et de prendre des positions » et d'abandonner des péchés, de renoncer à telle ou telle chose, parce que nous savons que c'est mauvais pour notre âme. Et Saül ne l'a pas fait. Saül est resté accroché, attaché, comme un homme charnel, gouverné par son instinct, il est resté attaché aux choses de la terre. L'homme charnel ne fait pas mourir ce qui est terrestre, il a encore des idoles, c'est pourquoi il n'est pas libre. C'est pourquoi, vous verrez, il n'a plus le désir de louer Dieu. Il n'a plus le désir de lire la parole de Dieu. Il n'a plus le désir d'être en communion avec Dieu ou avec les autres. Il est finalement en train de mourir spirituellement et il est en train de laisser la violence, de laisser les jugements, de laisser la rancœur, de laisser l'animosité dominer dans sa vie et il finira comme Saül. Il s'éloignera de Dieu s'il ne réagit pas, s'il ne se repent pas de ses péchés. Un peu plus loin, au chapitre 17, une deuxième partie, où on voit maintenant le jeune David confronter le géant Goliath. Vous connaissez cette histoire, bien sûr, très célèbre dans la parole de Dieu, mais les épreuves sont souvent révélatrices pour montrer la véritable nature des gens. Je vais lire quelques versets dans ce chapitre 17. « Tant que tout va bien, c'est facile d'être un croyant. Mais quand les épreuves arrivent, ça révèle la vraie nature du croyant. Est-ce qu'il est fidèle ? Est-ce qu'il va s'accrocher? Est-ce qu'il va rester fermement attaché au Seigneur? Ou est-ce qu'il va choisir l'autre voie, comme Saül, de ceux qui sont attachés aux choses d'en bas, de la terre? Ça, c'est dans l'épreuve qu'on le voit. Quelle était l'épreuve? Au chapitre 17, au début du chapitre 17, vous voyez qu'il y avait l'armée des Philistins qui campait devant l'armée de Saül et du peuple d'Israël. Chacun sur ses positions. Et un homme s'est dressé entre les deux camps. Il s'appelait Goliath. Il avait 3 mètres de haut. Il avait une cuirasse, la Bible dit, de plus de 60 kilos. Rien que sa lance faisait 7 kilos. Donc c'était un homme très fort. Il interpelle le peuple de Dieu et il les traite d'esclaves de Saül. Et il se moque des croyants. Et il lance ce défi. Choisissez un homme parmi vous. Si il me tue, nous les Philistins, nous serons vos esclaves. Mais si je le tue, vous les Israélites, vous serez nos esclaves. Et personne n'osait relever le défi. Évidemment, la situation était plutôt défavorable parce qu'il n'y avait pas dans le peuple d'Israël l'équivalence, quelqu'un d'aussi fort, au moins pour faire égalité avec Saül. Et quelquefois, frères et sœurs, nous sommes dans la même situation. Nous sommes dans une situation désavantageuse. Il semble que l'adversaire a plus de moyens. Il semble que la situation, en tout cas, qui est en face de nous, nous sommes peut-être, on dira qu'on est perdant. Mais il faut voir les choses d'une manière spirituelle. Et de manière spirituelle, comme David va le voir, il va voir que le peuple de Dieu n'est pas perdant. Mais Saül, lui, il se voit perdant. Vous voyez, alors je voulais lire le verset 11. On est toujours au chapitre 17. Le verset 11, on voit la peur de Saül. Saül et tout Israël entendirent les paroles du Philistin, donc de Goliath, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Voilà la conséquence de ces personnes qui n'ont pas laissé Dieu régner sur leur vie. Ils vivent effrayés, saisis d'une grande crainte. Cela a duré 40 jours. Le matin, le soir, le géant Goliath venait insulter l'armée de l'Éternel et personne n'osait relever le défi. Et c'est ainsi que parfois les défis nous semblent tellement grands et nous disons « c'est impossible, nous n'y arriverons pas ». Pourquoi Dieu nous a mis dans cette situation d'échec? Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à décoller? Frères et sœurs, tout est entre les mains de Dieu. Le Seigneur nous a donné les armes. Il nous a donné tout ce qui est nécessaire pour être dans la victoire. Restons dans la foi. Voyez, en ce qui concerne la chenille, quand elle doit devenir un papillon, elle passe par la chrysolide. Et cela dure à peu près 3 mois. Pendant 3 mois, il s'opère une transformation dans la chenille pour qu'elle devienne un papillon. Et elle est à l'étroit, elle est confinée. Et elle n'a qu'une envie, c'est de sortir à l'air. Mais quand elle a réussi à sortir, en fait, en réalité, elle a des ailes, le papillon a des ailes maintenant, mais il ne peut pas voler tout de suite. Et il pourrait se poser la question, mais j'ai des ailes, mais pourquoi est-ce que je ne vole pas? Mais Dieu lui a donné des ailes, mais il lui faut un certain temps, il faut environ 4 heures pour que le sang circule dans les ailes et donner la force aux ailes pour pouvoir voler, et ensuite il pourra voler. Et donc ce n'est pas que les ailes sont inutiles, mais il faut que le sang soit pompé pour aller dans les ailes. Et bien c'est ce qui se passe avec. Nous avons les possibilités de voler, nous les avons déjà, mais il faut que le sang aille jusque dans les ailes, c'est-à-dire c'est dans la prière, c'est de rester fidèle à Dieu dans l'épreuve, eh bien nous envoyons du sang dans les ailes. C'est d'être fidèle dans la prière, dans la foi, dans la communion avec Dieu, nous envoyons du sang dans les ailes et à un moment donné, ces ailes peuvent voler. Mais elles ne peuvent pas voler tout de suite, il fallait ce temps de préparation. Et ça, ça s'appelle l'épreuve. Et pendant les temps d'épreuve, en fait, qu'est-ce que nous faisons? Quand nous faisons confiance à Dieu dans l'épreuve, eh bien, c'est comme si nous envoyions du sang dans les ailes. Nos ailes se fortifient. Et quand le moment arrivera, eh bien, nous serons prêts. Et lorsque David arrive sur le champ de bataille, il entend le Philistin, son sang ne fait qu'un tour, lui, il est prêt à aller voir le géant. Alors, versets 31 et 32, on voit que Saül est dans le statu quo. Lorsque David arrive, lui, il est prêt à relever le défi, mais on le traite d'orgueilleux. Son frère Eliab dit à David, « Mais toi, on sait pourquoi tu es venu sur le champ de bataille, c'est pour voir la bataille, tu es un orgueilleux. » Donc, frères et sœurs, si on vous traite d'orgueilleux, on vous traitera de choses mauvaise, peut-être il y a des gens qui vous diront du mal, etc. Bien, laissez-les de côté, parce que David a laissé son frère et il est allé faire la volonté de Dieu. Et puis, il a laissé son frère dans ses propos qui n'étaient pas glorieux. Mais laissez-les. Mais vous faites la volonté de Dieu, faites ce que le Seigneur demande. Parce qu'il y a toujours des frères et sœurs qui ne vous encourageront pas. Et si nous dépendons, si David dépendait de l'encouragement de son frère, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Son frère qui lui dit « Tu n'es qu'un orgueilleux, pourquoi tu es venu ici ? Retourne t'occuper des brebis de ton frère. » Si nous dépendons de ce type d'encouragement, qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, on va être découragé, on va dire « Ah ben il a raison, j'aurais pas dû venir, c'était pas la peine. » Et finalement, ces paroles vont faire leur chemin et nous allons être déçus et on ne pourra rien faire pour Dieu. Donc, il met ça de côté parce que ce n'est pas la parole de Dieu et ce n'est pas la peine de polémiquer avec ce genre de personnes. Il va rencontrer le roi pour se proposer pour confronter le géant. Saül, lui, ne veut pas bouger, mais David a une attitude de foi. Alors, verset 32, donc chapitre 17, verset 32, David dit à Saül « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur, c'est-à-dire David, ira se battre avec lui. » Voilà la foi. Voilà David qui est animé d'un autre esprit. C'est l'Esprit Saint qui le pousse à aller au combat. Et frères et sœurs, l'Esprit nous poussera à faire des choses extraordinaires, à nous attendre à lui, mais peut-être d'autres voudront nous bloquer. Alors, l'esprit négatif de Saül, vous le voyez au verset 33. Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » Mais c'est vrai, ce que dit Saül est exact. David est plus jeune, David n'a pas d'expérience, il n'est pas assez fort, il n'a pas les moyens de vaincre comme cela avec des armes humaines, c'est exact. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un autre paramètre, parce que nous, nous sommes chrétiens. Et nous savons que Dieu est avec nous, frères et sœurs. Et que quand nous combattons, ce n'est pas avec des armes humaines, parce qu'on dira, mais ils n'y arriveront pas. Mais nous avons Dieu avec nous, de notre côté. C'est comme ça que David est allé, avec ce paramètre qui change tout. Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Donc il part dans cette attitude de foi. Où l'ange dit à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. David part dans cette attitude de foi et c'est ainsi que nous allons avancer. David est résolument positif. Il sait ce que Dieu peut faire. Il a vu Dieu agir quand il a vaincu le lion, il a vaincu l'ours. Il sait que Dieu est tout-puissant. Donc pour lui, le Philistin est déjà vaincu parce que Dieu est avec lui. Alors Saül va tenter une dernière chose au verset 38 à 40. Saül accepte qu'il parte, mais il va dire « Mets au moins mon armure ». Et il va lui mettre son casque, il va lui mettre sa cuirasse, il va lui mettre son épée qui est beaucoup trop lourde pour lui. Il n'arrive pas, David n'arrive même pas à marcher, il n'est pas habitué à ses armes de guerre. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas combattre avec les armes d'un autre. Il y a des combats spirituels qui sont les nôtres et c'était le combat de David. Et nous ne pouvons pas prendre les armes d'un autre. Mais David avait ses armes. Et quelles étaient les armes de David ? Paul dit dans 2 Corinthiens 10, 4, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. » Elles ne sont pas charnelles comme celles de Saül. « Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, et on pourrait ajouter, et pour vaincre des géants. » Et c'est comme ça que David est allé. Pas avec les armes charnelles, pas avec la lance, le javelot, l'épée, tout cela, il a laissé de côté, mais simplement avec les armes spirituelles que Dieu lui a données. Et il est allé chercher ses 5 pierres, il est allé chercher son bâton, sa fronde, et il est allé surtout au nom de l'Éternel des armées, au verset 44, c'est ainsi qu'il est allé. Heureusement que David n'a pas écouté le conseil du roi. Et quelquefois, il y a des conseils qui sont entre guillemets, sage, parce que c'était pour le protéger, c'était pour dire à David, écoute, mets au moins cette armure comme ça, s'il y a des coups qui viennent, ça va te protéger. C'était pour son bien. Il y a des conseils qui vont vous être prodigués pour votre bien, mais qui ne sont pas inspirés de Dieu. Et ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il agisse ainsi. Heureusement que David n'est pas allé avec cette armure. Il n'aurait pas été à l'aise pour manier sa fronde, et peut-être il n'aurait pas pu vaincre à cause de cette armure. Donc, il a préféré faire confiance à Dieu plutôt que dans les armes humaines. Et il y a une chose remarquable chez David, c'est que quand il s'avance sur le champ de bataille face aux géants, il n'a pas encore combattu, mais il s'avance à la rencontre du Philistin dans une attitude de victoire. C'est au verset 47. Et toute la multitude, il dit à Goliath, c'est David qui parle, toute la multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance, c'est-à-dire par les armes charnelles, que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Il faut savoir qu'à ce moment-là, David n'a même pas encore lancé sa première pierre, mais il est dans une attitude de confiance, de foi inébranlable, que ce que Dieu dit, il est puissant pour l'accomplir et il va voir la gloire de Dieu. Et effectivement, il avait pris 5 pierres, mais il a suffi de la première seulement. La première seulement a atteint l'objectif, le front de Goliath. Il s'est effondré et il est mort sur le coup parce que Dieu a conduit la main de David lorsqu'il a lancé cette pierre. Et c'est par la puissance de Dieu que ce géant est tombé. Faisons confiance au Seigneur. Partout dans la parole, on voit ce conflit entre la chair et l'esprit. Mais soyons des hommes et des femmes de l'esprit. C'est ainsi que nous remporterons des victoires sur des géants. C'est ainsi que nous ne reculerons pas devant l'ennemi. Si vous regardez la suite de l'histoire de Saül et David, vous verrez toujours une opposition. Parce que Saül va vouloir le tuer. Saül va voir cet homme grandir et grandir, devenir de plus en plus puissant, de sorte que les jeunes femmes chantaient « Mais Saül a tué ses 1000, mais David a tué ses 10 000 ». Et Saül voyait d'un mauvais œil le succès de David. Pourtant, rappelez-vous qu'au début, il aimait David. Mais il voit avec déplaisir le succès de ce jeune homme, qui devient de plus en plus fort, qui devient de plus en plus puissant. Et il craint pour sa royauté, et il se dit, mais un jour, il prendra ma place. Il dit, il ne lui manque plus que la royauté, mais il ne peut plus se réjouir avec lui. Plusieurs fois, il a tenté de le tuer. Plusieurs fois, il a lancé sa lance contre David pour le percer contre le mur, parce que ses pensées étaient tournées vers le mal, parce que la chair est opposée à l'esprit. Et il y a un verset qui dit, c'est dans Romains 8, 5, « En effet, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. » Ça, c'est Saül. « Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Ça, c'est David. Et l'affection de la chair, c'est quoi? C'est la mort. Ça va être la vie de Saül, va le conduire à la mort, au suicide. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et David ne va cesser de grandir dans cette direction. L'affection de la chair, c'est l'inimitié contre Dieu. Saül va être en guerre contre Dieu jusqu'au bout. Il va être en opposition permanente avec l'Esprit de Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne le peut même pas. Il faut donc crucifier la chair pour vivre par l'Esprit. C'est ainsi que nous avancerons dans la vie chrétienne. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et Saül a connu ces moments où c'est la chair qui dominait sur sa vie. Saül, donc, a passé le reste de sa vie malheureux. Il a poursuivi David dans les déserts. Il l'a poursuivi dans les cavernes, il l'a poursuivi dans les forêts, mais il n'a jamais pu atteindre David. Pourquoi ? Parce que ceux qui vivent par l'esprit sont gardés dans la main de Dieu, mais ceux qui sont conduits par la chair courent après le vent et ils n'obtiendront jamais satisfaction. Ils penseront que s'ils ont cette voiture, ils seront plus heureux, mais ce n'est pas cela qui fait notre bonheur. Ils pensent que s'ils achètent cette maison, ils seront enfin plus heureux. Mais ce n'est pas les possessions qui font notre bonheur. Ils n'ont pas compris que ce qui fait notre bonheur, c'est d'avoir une bonne communion avec le Seigneur. Et ils ne seront jamais heureux. Ils iront toujours à la poursuite, toujours pour détruire, mais ils passent à côté des merveilleux moments que Dieu a pour chacun de nous. Alors, en conclusion, on a vu ces deux rois, finalement. Saül, le roi sur le déclin, David, le roi qui prospère, qui monte, le premier a choisi la chair. Sa vie n'a été que défaite, que désobéissance. Il ne s'est pas remis en question. Il n'a pas écouté la voix de Dieu. L'esprit qui le poussait à la repentance. Mais le second a choisi l'esprit. Peut-être il a tourné un rond, peut-être il a été mis de côté pendant un temps à garder les brebis. Il a dû fuir aussi pendant des années pour sauver sa vie. Mais en réalité, Dieu veillait sur lui. Et le jour est venu où, lorsque Saül est mort, c'est David qui a été choisi pour régner à la place de Saül. Et c'est David qui a amené le peuple d'Israël dans les grandes conquêtes. Et c'est sous David qu'il y a eu de grandes victoires sur les peuples ennemis autour. Mais il fallait attendre le temps de Dieu pour que les choses se mettent en place. Nous avons déjà reçu l'onction, nous avons déjà été choisis par Dieu. Mais peut-être nous ne sommes pas encore dans le plan, dans la position que Dieu a prévue pour chacun de nous. Mais nous sommes en préparation. Nous sommes dans cette étape où le Seigneur est en train de nous fortifier. Un petit peu comme le potier va travailler le vase. Nous sommes entre les mains du potier et nous sommes en train de grandir, d'être fortifiés. Ça, c'est ceux qui vivent selon l'Esprit. Rappelez-vous ceci, l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'Esprit, c'est la vie. Et Dieu ne force personne. Il a laissé la liberté à Saül. Il a laissé la liberté à David. Ils ont fait leur choix. Les choix que nous faisons révèlent notre amour pour Dieu. Ou alors notre manque de reconnaissance, ou alors notre désobéissance. On va prier quelques instants et je vous invite à vous placer devant le Seigneur afin de rechercher véritablement cette vie qui plaît à Dieu et de dire oui, c'est vrai Seigneur, aujourd'hui, je ne veux plus vivre selon la chair. Je ne veux pas être comme un Saül qui est toujours dans la désobéissance, attaché aux choses de la terre, qui n'a pas compris que les vraies valeurs sont ailleurs, mais qui est même sous l'emprise d'esprits impurs qui lui font faire des choses qu'il ne veut pas faire, qui est animé de haine, de violence, de méchanceté dans son cœur, tout cela parce qu'il a désobéi à Dieu. Seigneur, je te prie pour une personne qui veut demander pardon ce matin, qui veut se repentir, qui veut revenir à toi d'un cœur sincère, qui veut changer de vie, et nous croyons que tu es là pour pardonner, mais tu attends, Seigneur, des décisions, tu attends aussi des personnes qui se repentent sincèrement, qui réalisent la gravité du péché, parce que ce n'est pas des choses secondaires, ce sont des choses importantes à tes yeux. Et Seigneur, nous savons que tes yeux sont sur nous, et je te prie pour celui ou celle qui est dans cet état, Seigneur, afin que tu le fortifies, afin qu'il puisse véritablement changer de vie et passer de cet état de recherche des choses de la chair à celle des choses de l'esprit. Bénis mes frères et sœurs aussi pour que chacun puisse marcher selon ton esprit dans les voies où tu nous as placés, même si parfois nous sommes mis de côté, nous sommes peut-être rejetés, on n'a pas été convoqués, on nous a méprisés, mais nous savons que tes yeux sont sur nous et que même par ce chemin-là, tu es en train de nous façonner et de nous faire grandir parce que c'est toi, Seigneur, qui es notre chef, c'est toi qui pourvois tous nos besoins. Alors nous te faisons confiance et nous te disons à toi toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen.